Bonjour mes frères et sœurs, ce soir on va étudier un texte dans Matthieu chapitre 7 versets 13 à 14. On va faire la lecture dans le Nouveau Testament, un livre juif, la traduction originale de David H. Stern. Je vous en ai déjà parlé souvent, vous pouvez la commander, cette version du Nouveau Testament, dans Emmet Edition. Voilà, vous y êtes, Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite. Car la porte qui mène à la destruction est large, et la route est spacieuse. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais la porte qui mène à la vie est étroite, et sa route est difficile. Peu sont ceux qui la trouvent. Hey. Jésus nous dit, quelque part ailleurs, je suis la vérité. Et ce qu'il dit là, c'est la vérité. Voilà, on peut le voir clairement, à chacun sa vérité, selon son degré de conscience. C'est dans l'existence, il nous arrive des épreuves plus ou moins brutales, je vous parlais de ça encore dernièrement, et nous devons personnellement nous mobiliser, c'est-à-dire mobiliser le meilleur de nous-mêmes. Et surtout, nous devons nous appuyer sur le Seigneur qui ne change pas, qui est un appui solide. Alors quand on apprend quelque chose avec le Seigneur, quand on l'apprend, c'est rapide, on l'apprend, c'est fulgurant, on l'apprend, on le sait, voilà. On apprend, on prend conscience de quelque chose d'essentiel. C'est souvent un choc qui fait basculer notre vie quand on apprend quelque chose qui vient de Dieu. Par exemple, ma conversion, ça a été un choc rapide. Et ça a fait basculer ma vie. Quand j'ai entendu Raphaël prêcher, c'était un choc. Ensuite, quand j'ai entendu Osborne, ça a été un choc, mais c'était rapide. Et ça a fait basculer ma vie. Ces choses rapides m'ont marqué. Et elles ont fait la personne que je suis. Rien ne pourra oxyder ça. Rien ne pourra dissoudre ça. Rien ne pourra corrompre ça. Maintenant, les choses de la révélation donnée par Raphaël et par Osborne m'ont placé sur un chemin qui est long. C'est en marchant sur ce chemin qu'ils m'ont ouvert que j'ai petit à petit changé d'état, changé de marche, c'est-à-dire de degré. Ce que je veux vous dire, c'est que si nous prenons au sérieux ce que les serviteurs de Dieu enseignent, ça doit changer notre vie. Je me dis toujours, mais comment c'est possible? Moi, je me rappelle quand frère Osborne était venu en France, c'était en 71, je n'avais pas pu aller l'écouter parce que j'étais sous les drapeaux à l'armée en Suisse. J'en étais malheureux. Mais aussitôt que j'ai su que la famille Châtelain de Genève avait fait des bandes magnétiques, je me suis procuré ces bandes tout de suite. J'ai appris que là où il avait prêché, il y avait des milliers de personnes qui ont entendu. Je me dis toujours, mais comment et pourquoi tous ceux qui ont entendu et qui ont vu Osborne n'ont pas changé? Quand on entend un enseignement comme celui du salut, celui de la guérison, celui de la délivrance, de la vraie abondance sainte, je ne vous parle pas de l'abondance des escrocs, on a un choc. Mais seuls ceux qui se mettent en marche sur la route, et ça c'est difficile, ceux qui se mettent à pratiquer ces enseignements voient leur vie changer. À partir du moment où vous entendez, vous n'êtes déjà plus un profane. Vous avez passé la porte, vous êtes sur le chemin. Jésus a dit aussi, je suis le chemin. Mais vous devez accepter de mourir à vous-même. Que vos projets meurent. Que vos ambitions meurent. Moi, je me rappelle toujours, mon frère, il était choqué parce que quand je me suis converti, j'ai dû abandonner certains amis parce que ils ne voulaient pas de Jésus. Ils voulaient continuer à boire, à faire des folies comme je faisais moi avec eux avant. J'ai dit non, moi je veux pas. Et donc, je les ai laissés tomber. Je me suis converti. Je ne les ai pas laissés tomber sans rien leur dire. Je leur ai parlé. Ça a duré quelques mois. Mais il y a eu un moment où j'ai dû prendre un... J'ai pris la route. Je me suis mis en marche. Ça change la vie. Ça fait basculer la vie, l'enseignement de Jésus, tout le temps. Quand on entend un enseignement donné par un serviteur de Dieu qui est confirmé par Dieu, je ne parle pas de tous les bavards qui racontent n'importe quoi, mais à ce moment-là, on reçoit une clé pour pouvoir aller chercher en nous-mêmes le trésor secret que Dieu a déposé. Parce que Dieu a déposé ça avant notre naissance. Il nous connaissait avant notre naissance. Et c'est là que tout se joue. Vous avez la clé. Mais vos peurs, vos préjugés, vos croyances, elles doivent se dissoudre pour que le trésor qui est en vous, qui est vous, votre vrai moi, votre âme, c'est pas vous, c'est votre esprit qui est vous, votre esprit éternel, votre âme est une création qui doit se soumettre à l'esprit qui est véritablement vous. Eh bien, vos peurs, vos préjugés, vos croyances, elles doivent se dissoudre pour que le trésor qui est en vous, qui est vous, cette pierre cachée dont je vous parlais la dernière fois, puisse enfin apparaître. Quand on entre en communion avec Jésus, on entre obligatoirement en communion avec les frères et sœurs de l'Église. Et nous voilà un petit peu comme à l'armée. À l'armée, on fréquente toutes sortes de personnes qu'on n'aurait certainement pas fréquentées autrement. Je vous rappelle, à l'armée, j'avais dans ma chambrée, il y avait un médecin, il y avait un illettré, il y avait un carreleur, il y avait un paysan, il y avait des toutes sortes de gens. Il y avait un culturiste aussi, je me souviens. Et on est obligé de se mettre au niveau avec tout le monde. Ça rabaisse l'orgueil de ceux qui croient tout savoir que d'être dans l'église où il y a tant de gens qui sont différents, de cultures différentes, d'éducation, avec une éducation différente. Ça rabaisse l'orgueil de ceux qui se croient quelqu'un. Quand vous entrez dans l'église de Jésus-Christ, et votre ego, il est tout de suite mis à l'épreuve. Ça, c'est sûr. Votre matière brute va devoir se mettre en ordre, s'ordonner. Parce que vous allez vous asseoir avec tout le monde. Vous allez écouter un pasteur qui est peut-être moins instruit que vous. Et ça fait drôle au début, peut-être. Et vous allez apprendre qu'il n'est pas là pour vous donner une information. Parce que ça, c'est ce qu'il y a dans le monde, on se donne des informations. Non, là, le ministre de Dieu, il est là, mandaté par Dieu pour vous délivrer un message divin. Pas une information. C'est très différent. Dans le monde, on partage des infos. À l'église, on écoute la parole de Dieu, c'est autre chose. On n'écoute pas les opinions du pasteur. Bien sûr qu'il a des opinions, de temps en temps, il en glisse une dedans, dans ses sermons. On a vite fait de reconnaître ce qui vient de l'homme, de ce qui vient de la chair, de ce qui vient de l'esprit. Alors, on commence à abandonner nos acquis, nos sécurités illusoires, nos préjugés, nos passions. Et puis, on commence à faire confiance à ce berger, à ce pasteur qui nous guide. Et ce berger, ce pasteur, nous est inconnu au départ. On écoute. Ça peut paraître étrange. Moi, je me rappelle... J'ai eu quelque temps un pasteur qui était pharmacien. C'était extraordinaire, c'était un érudit, c'était formidable. Après, on a eu un autre qui n'était pas du tout érudit, parce que l'autre est parti à la retraite. Enfin, c'est toute une histoire. Vous savez, on est là pour acquérir la nourriture céleste. On est dans l'église, en communion avec des frères et sœurs, avec eux, pour acquérir la nourriture céleste. Les ministères sont là pour ça, pour nous amener à la perfection. Alors évidemment, on peut s'asseoir et écouter au premier degré l'histoire de Jésus qui calme la tempête, l'histoire de Caïn et Abel, de Noé, d'Abraham, etc. Mais au bout d'un certain temps, quelque chose se produit en nous. L'intelligence du cœur va commencer à prendre vie. Vraiment. Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une intelligence du cœur rationnel. Dans le monde, on n'a pas ça. Le cœur, ce n'est pas rationnel. Et vous allez avoir une maîtrise de vous-même affective. Ce qui est exactement le contraire de ce qui se passe quand on est dans le monde. C'est exactement ce que produit la vérité prêchée. C'est comme un miracle qui prend forme, comme un croisement des polarités, je dirais. Vous ne vivez plus comme avant, et ça, c'est pas à cause d'un bourrage de crâne, c'est pas dû à un lavage de cerveau, c'est le miracle de votre nouvelle vie qui se manifeste à cause de la semence de la parole de Dieu qui est une semence incorruptible. C'est pourquoi l'Église et les ministères sont importants. L'Église, où on se retrouve à vivre avec des gens si différents, des ministères qui sont des porte-paroles de Dieu, et non pas des animateurs de supermarché ou qui nous donnent des infos. Dans l'Église de Jésus-Christ, dans son Église rétablie, qui est une communauté, dont nous parle acte 2, acte 4, c'est le seul modèle hein, de l'Église. Eh bien, dans l'Église, on met notre cœur à nu, on dissimule rien, notre nature est exposée, notre nature profonde. Et c'est une marque de confiance, de franchise, de transparence qui se forme sur notre vie. Une marque qui se forme sur notre vie. La foi, la confiance, la franchise, la transparence, pas seulement avec Jésus, mais aussi avec les frères et sœurs. C'est pour ça que c'est très différent. C'est très difficile d'avoir une telle confiance, une telle franchise, une telle transparence avec des gens qu'on ne voit que le dimanche matin entre 10h30 et midi, et puis de temps en temps à la réunion de prière, parce qu'on ne les connaît pas. On n'a pas de communion fraternelle. On est assis en randonnion dans cette église, enfin dans ce truc qui s'appelle l'église. Les premiers croyants, ils vivaient ensemble. Et puis, comme ils étaient très nombreux, le seul lieu de culte qu'ils pouvaient avoir, c'était le temple à Jérusalem. Ils allaient au temple. Puis ensuite, ils prenaient le pain, le vin, dans les maisons, ils mangeaient ensemble. Voilà. C'était ça l'église, c'était la communauté. Maintenant, on l'a transformé en Dieu, on va à l'église, c'est faux. Mais en fait, c'est la moindre des choses pour une personne qui veut entrer dans une famille divine, que de pouvoir faire confiance, être transparent avec ceux qui font partie de cette famille. En fait, là, dans l'Église, on fléchit les genoux. Fléchir les genoux. J'étais très étonné, vous savez, en faisant des recherches généalogiques pour trouver mes ancêtres, afin de me faire baptiser à leur place, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 15-29. J'étais très étonné de trouver que le mot « genou » vient du latin « genu », qui est la racine des mots « gène », nos gènes, « généré », « géniteur », « engendré » et « janton ». Fléchir les genoux, ça n'est pas qu'un signe d'humilité. Cela a aussi un rapport avec la filiation, avec la reconnaissance de notre Père Céleste. J'ai aussi appris que dans l'Antiquité, pour reconnaître qu'un enfant était bien de lui, le papa devait prendre son bébé, la première fois qu'il le prenait, il devait le prendre publiquement et le déposer sur ses genoux. Alors on disait, l'enfant est genuinus. C'est-à-dire admis dans la famille. Vous voyez, c'est des choses très anciennes, de l'Antiquité. Mais c'est très profond tout ça. Quand tu entres dans la communauté de Jésus-Christ, tu es reconnu, tu retrouves ta véritable origine, tu es connu pour être un enfant du Père Céleste qui te prend sur ses genoux et tu te mets en capacité de devenir une personne qui va pouvoir avoir des enfants spirituels. Dernièrement, j'écoutais un homme enseigner sur YouTube, il racontait ses histoires au sujet de la date du retour de Jésus, et je pense que vous voyez de qui je veux parler. Et il disait qu'il faut sortir des églises, qu'elles sont toutes corrompues. Ok. Il a raison, c'est écrit, sortez du milieu d'elles afin de ne pas participer, etc., etc. Mais on ne sort pas de l'église de Jésus-Christ. On doit sortir des organisations, de ces clubs organisés par les hommes. Oui, ça, ok, d'accord. Mais on ne doit pas sortir de la vraie église. On doit persévérer dans la vraie église, c'est-à-dire dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, enfin tout ce qu'on trouve, n'est-ce pas, dans acte 2, acte 4, on doit persévérer là-dedans. Persévérer comme dans acte 2, 46, il nous est dit, il persévérait en communauté de vie, qui était l'église. Alors cet enseignant ne disait pas vraiment ce qui est juste. Il avait une perception, il se rendait bien compte qu'il y a un malaise, il se rend bien compte d'ailleurs, qui ne se rend pas compte qu'il y a un malaise dans les églises, mais bon. Mais à la fin de son enseignement, il s'est mis à pleurnicher pour avoir de l'aide parce qu'il est sans aucun revenu et qu'il ne touche plus, vous savez, les allocations, les machins chômage, et qu'il est malade, et que ça c'est bizarre. S'il était dans la véritable église de Jésus-Christ, je ne dis pas dans ses clubs religieux, mais dans la véritable église de Jésus-Christ, c'est écrit qu'une grande grâce reposait sur chacun parce qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi il n'y avait aucun indigent? Parce qu'ils mettaient tout en commun. Comment ça se fait qu'il est dans cet état-là, ce pauvre frère? Parce qu'il est sorti de l'église de Jésus-Christ. Il aurait dû sortir, oui, de l'église de ces machins, mais il aurait dû créer une communauté fraternelle. Il a à peu près 400 personnes qui viennent l'écouter sur sa page Facebook. Mais est-ce que ces 400 personnes sont prêtes à faire sacrifice de tout, mettre en commun et vivre ensemble avec lui? Je doute. Bon, alors ils vont lui envoyer 2 balles pour l'aider à s'en sortir de son problème passager. Bon, il ne faut pas quitter l'église de Jésus-Christ, sa sainte communauté. Si tu fais ça, tu vas vivre avec un bandeau sur les yeux. Et puis en plus, tu vas devenir sourd. Tu vas devenir victime de raconteurs de fables. Voilà pourquoi la Bible nous dit à la fin des temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils se donneront une foule de docteurs qui leur raconteront n'importe quoi, qu'il faut se faire baptiser en noir, qu'il faut jeter les photos de nos enfants parce que c'est des idoles, que sais-je. Tu dois t'en remettre à Jésus, le bon berger, et le suivre dans son église. Il n'a pas laissé tomber son église, hein. Elle existe toujours. Les épreuves, tu en auras partout. Même si tu fais partie de la véritable église de Jésus-Christ, tu auras des épreuves, parce que c'est normal, il y a des gens dedans, puis les gens, c'est pas toujours ça, quoi, je veux dire, des fois on n'est pas toujours au top, puis on peut blesser quelqu'un, voilà, ça peut arriver. Et puis même, dans la véritable église de Jésus-Christ, on peut aussi tomber malade ou avoir un problème. Parce que les épreuves, elles sont là pour nous donner la force de marcher jusque dans la lumière, c'est-à-dire que de pouvoir révéler la véritable personne que nous sommes. Et les épreuves font une chose que rien ne peut remplacer. Elles font partie du programme de Dieu. Ça t'oblige à te développer, à développer ton regard intérieur, à ouvrir les antennes de ton intuition spirituelle. Parce qu'on a tous de l'intuition, mais est-elle spirituelle? Elle t'aidera à marcher sur l'eau, dans le monde invisible. Tout cela, c'est indispensable. Sinon, t'es quoi alors? T'es un endoctriné, comme il y en a plein. T'as ta doctrine, puis t'arrives pas à te sortir de là. Si t'entends quelque chose qui est un peu différent, ça vient du diable. Les épreuves dans la vraie église de Jésus-Christ, elles t'aident à aller au-delà des apparences. Elles t'aident à voir avec le cœur. Je vous rappelle, dans la communauté, autrefois, on a eu des personnes qui ne regardait qu'à l'apparence. Oui, la sœur un tel, elle n'a pas fait son boulot, elle n'a pas fait la vaisselle. Oui, le frère un tel, il a acheté une voiture, c'est quand même scandaleux, elle est trop chère, enfin bon, n'importe quoi. Ils regardaient toujours qu'à l'apparence, ils ne voyaient pas avec le cœur. Et comme le disait Saint-Exupéry, si bien repris par James Dean, qui n'arrêtait pas de le citer, l'essentiel est invisible pour les yeux. Il faut regarder l'essentiel. Les choses que tu vois et qui te semblent étranges dans l'Église ne doivent pas être une pierre d'achoppement pour toi. Tu dois faire confiance à Jésus, ton berger. Bien sûr, je parle ici de la vraie Église, non pas de ces dénominations organisées par des hommes loin de l'enseignement d'acte 2 et acte 4. Voilà, je voulais vous dire ça aujourd'hui, pour vous aider à frapper à la bonne porte. Jésus est la porte. Et à trouver le chemin derrière la porte. Le chemin derrière la porte, c'est encore Jésus. Mais c'est Jésus dans son Église. Franchir la porte, c'est un choc, c'est quelque chose qui est fulgurant quand on passe une porte. Mais une route, ben le chemin peut être long. Alors mon frère et ma sœur, je prie pour toi afin que sur cette route, tu ne te lasses pas, que tu ne quittes pas le chemin, que tu ne reviennes pas en arrière, que tu ne t'assoies pas au bord de la route, l'âme lassée, mais que tu fasses preuve de courage et que tu relèves la tête et le cœur et que tu ailles plus loin. Avec l'aide de ton Seigneur, selon sa parole. Merci Seigneur Jésus. Veuille bénir chacun et chacune. Amen. Amen. Au revoir.